Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Mr. McEntee and I agree that she should of course be entitled to access the same full period of 6 months maternity leave as any other public servant.
Bonjour. Féminiser le pouvoir, le défi reste à relever. Concilier investissement dans la vie publique et responsabilité familiale, c'est toujours compliqué. Surtout quand on est une femme, et pire encore quand on est une femme politique. Dans le domaine, la maternité n'est parfois même pas prévue par les textes. C'est le cas en Irlande, où le gouvernement s'est retrouvé bien ennuyé quand la ministre de la Justice, Helen McEntee, a récemment annoncé qu'elle était enceinte. Les explications de notre correspondante à Dublin, Emeline Vin.
Quand Helen McEntee, ministre de la Justice, annonce sa grossesse à ses collègues en décembre, c'est la stupéfaction. En un siècle d'indépendance, aucune ministre irlandaise n'est tombée enceinte en étant à la tête d'un portefeuille. Les lois ne prévoient aucune disposition pour cette situation. Qu'il s'agisse d'une ministre ou d'une députée, l'unique possibilité pour les nouvelles mères, prendre un arrêt maladie, idem pour les jeunes papas d'ailleurs. Dès lors, il a fallu trouver une solution pour Helen McEntee. La forcer à démissionner aurait fait mauvais genre et il n'était guère judicieux non plus de demander à la jeune maman de revenir au ministère après quelques semaines seulement. En plus, il ne peut y avoir qu'un seul ministre de la Justice à la fois. La politicienne aurait de toute façon refusé tout compromis. Il était essentiel pour elle de montrer à toutes les filles, à toutes les femmes, que la maternité n'est pas un obstacle. La solution trouvée par le gouvernement, pendant ses 6 mois d'absence, Helen McEntee restera ministre en titre, mais sans portefeuille. Les affaires de la justice seront expédiées par les secrétaires d'État par intérim. Et en novembre, elle retrouvera son ministère. Une solution sur mesure qui ne résout pas le problème de fond, même si elle a le mérite d'avoir ouvert le débat. Pour le reste des députés, il faut souvent choisir entre mandat ou maternité. Les sessions parlementaires s'étirent souvent jusqu'au milieu de la nuit, pas très compatible avec la charge d'une vie de famille, encore souvent sur les épaules des femmes. L'Assemblée citoyenne sur l'égalité homme-femme doit émettre des propositions le mois prochain. Dans le Parlement actuel, les femmes ne représentent qu'un quart des députés.
Da Prime Minister ho imparato ad essere una persona più sicura perché la sicurezza è l'arma che ci permette di esprimere sempre al meglio le nostre idee.
Entre autocensure, plafond de verre et machisme ordinaire, les italiennes ne connaissent pas encore la parité. Dans l'actuel gouvernement de Mario Draghi, sur 3 ministères, un seul est attribué à une ministre. Même proportion au Parlement, où les femmes députées et les sénatrices occupent un tiers des sièges, ce qui est dans la moyenne européenne. Pour faire changer les choses, 4 militantes ont lancé Prime Minister. Premier ministre. C'est une formation dont l'objectif est de pousser les jeunes femmes à avoir des ambitions et à les assumer. Reportage de Franceline Beretti.
Que faut-il apprendre en priorité aux jeunes italiennes pour les pousser à s'engager dans la vie publique et à se battre pour leurs idées? Denise Didio est une des 4 fondatrices de l'école Prime Minister. Elle sait exactement ce qu'il faut commencer par changer.
Elles doivent comprendre qu'elles ont un énorme potentiel, qu'il doit être reconnu et qu'il faut continuer à le développer, à étudier, s'engager, sans perdre de vue qu'avec ce travail, leurs talents, leurs capacités, elles peuvent réussir à faire absolument tout ce qu'elles veulent.
C'est par là que tout commence donc, et c'est ce qui plaît à toutes les participantes. En général, les jeunes italiennes ne se sentent pas encouragées à s'exprimer dans la vie quotidienne par rapport aux garçons. Simona a 17 ans, elle habite dans les Pouilles, elle dit ne pas vraiment souffrir du sexisme, même si les différences dans le traitement des deux sexes l'agacent.
C'est sûr qu'en tant que jeune fille, on ressent déjà l'inégalité. Par exemple, dans la façon dont les plus grands nous considèrent. Moi, je me suis entendue dire tellement souvent que je ne pouvais pas parler parce que j'étais trop petite. Alors que dans le même temps, les garçons de mon âge s'exprimaient tranquillement. Donc on nous diminue un peu par rapport à eux.
Pour donner confiance à ces jeunes de 14 à 18 ans, Prime Minister propose des conférences et des discussions autour d'une thématique précise. La formation accompagne aussi chaque participante dans la réalisation d'un projet citoyen. Et puis il y a des apprentissages très concrets, comme par exemple la façon d'ouvrir un compte en banque ou de placer son futur argent. Prime Minister insiste sur la nécessité d'indépendance économique. Tout cela est gratuit, financé par des fondations privées. Les adolescentes se retrouvent à 20 ou 25 dans une des 6 antennes italiennes, un samedi par mois, un espace pour les aider à s'affirmer et à atteindre les objectifs qu'elles se fixent. En un mot, anglais, empowerment. Denise Didiot, la fondatrice du projet.
L'empowerment, c'est le fait de permettre à toutes les filles de faire entendre leur voix singulière. Ce n'est pas leur indiquer quelles seraient les bonnes valeurs ou les chemins à suivre. Pour s'exprimer, beaucoup de femmes et d'hommes que nous rencontrons à travers la formation nous montrent comment ils ont décidé de répondre à des besoins qu'ils avaient identifiés eux-mêmes à travers la politique, l'entreprise, la culture, l'engagement citoyen, le volontariat ou l'humanitaire.
Prime Minister ne cherche pas à lancer directement les femmes dans la politique. D'ailleurs, certaines veulent être médecins ou faire de la recherche en sciences politiques, comme Paola. Se faire élire un jour, pourquoi pas ? La Romaine constate d'ailleurs qu'elle est en train de se construire un réseau.
On a rencontré beaucoup de femmes engagées en politique, donc si un jour je voulais me lancer de façon plus active, j'aurais déjà quelques références, des personnes vers lesquelles me tourner, avec lesquelles je pourrais faire des projets, etc. Et puis les autres filles qui suivent les cours sont aussi devenues mes modèles. On a beaucoup de discussions. Parfois l'une d'elles convainc avec des idées. Il n'y a pas de limite marquée entre les intervenantes et les participantes.
Toutes les participantes insiste sur la bonne entente entre elles et l'énorme stimulation intellectuelle qui ressort des discussions. Viola a 16 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut, devenir médecin. La Sicilienne s'émerveille de tout ce qu'elle apprend avec Prime Minister.
Ce cours ouvre surtout des portes sur la vie quotidienne, sur tout ce que l'école ne nous apprend pas. Il nous apprend vraiment à gérer notre vie, comment se fixer des objectifs et comment les atteindre. C'est très, très formateur. Moi, je suis une fille très ambitieuse, toujours à la recherche de choses nouvelles. Honnêtement, au début, je n'avais pas une idée claire de ce qu'était au fond la politique. Mais après m'être inscrite à ce cours, j'ai compris que c'était un monde fascinant, enchanteur, et j'admire les personnes qui évoluent dans ce milieu.
La formation peut donc susciter des vocations. C'est ce qu'espèrent les créatrices du programme. Avec plus de femmes au pouvoir, la société italienne deviendra plus égalitaire.
En Turquie, l'une des figures qui compte le plus dans l'opposition est une femme, Meral Akşener, 64 ans, pur produit de la droite nationaliste turque. Elle a réussi en peu de temps à s'imposer dans le paysage politique et à se montrer comme une candidate sérieuse à la prochaine présidentielle prévue en 2023. Recep Tayyip Erdogan rêverait de s'en faire une alliée. Il se heurte au contraire à une opposante déterminée. À Istanbul, les précisions d'Anne Andlauer.
C'est une habitude. Recep Tayyip Erdogan commence tous ses discours par dénigrer ses détracteurs et leur formation politique. Mais il est un parti et une figure d'opposition qu'il oublie systématiquement, le parti İyi ou Bon Parti de Meral Akşener, la cinquième force au Parlement. Meral Akşener, que ses partisans surnomment la louve du nom de l'animal mythologique des Turcs, inquiète le président. Elle incarne une partie de la droite nationaliste. Or, Tayyip Erdogan chasse sur ces territoires-là, lui qui a fait alliance avec le MHP, le parti historique des Turcs d'extrême droite. Meral Akşener a précisément créé son parti en 2017 après avoir été exclue du MHP et elle a amené avec elle une partie des électeurs. Aujourd'hui, le Bon Parti est crédité d'environ 10% des voix et il a même formé une alliance avec le principal parti d'opposition, le CHP social-démocrate. Meral Akşener fait peur à Recep Tayyip Erdogan parce qu'elle est loin d'être une débutante. Elle a même été ministre de l'Intérieur à la fin des années 1990 et qu'elle maîtrise tous les codes. C'est une excellente oratrice, une experte de la critique politique bien sentie et souvent drôle, une femme de terrain qui s'est lancée dans un grand tour de l'Anatolie à la rencontre des commerçants et de tous ceux qui souffrent de la crise. Elle tape là où cela fait mal à Recep Tayyip Erdogan. Elle sait comment se faire entendre dans un paysage médiatique en proie à la censure, en utilisant les réseaux sociaux ou en invitant à la tribune de ses réunions parlementaires des anonymes qui racontent concrètement comment les politiques du pouvoir nuisent à leur vie professionnelle ou personnelle. Bref, Meral Akşener est ce qu'on appelle une figure présidentiable et elle est à peu près la seule dans toute l'opposition à revendiquer ouvertement cette ambition.
Allez, on s'offre une pause café, pas n'importe où, direction Lisbonne et le quartier du Chiado. cœur de la ville intellectuelle et culturelle de la capitale portugaise. Le Brasileira est un incontournable avec sa déco protégée, son kiosque à journaux à l'intérieur et sa terrasse prise d'assaut par les touristes qui se prennent en photo devant la statue du poète Fernando Pessoa. Aujourd'hui, des passionnés s'activent pour perpétuer la vocation littéraire de l'endroit et lui redonner son brio. L'épopée du Brasileira, un reportage de Marilyn Darcy.
La Brasileira s'inscrit dans cette tradition des cafés littéraires du début du XXe siècle. Dans le château où il se trouve, il est l'un des derniers survivants d'une époque où intellectuels et artistes refaisaient le monde. Le Brasileira est né par la volonté d'un émigré portugais commerçant en biens alimentaires revenu à Lisbonne il y a 116 ans. Sonia Felgueras, responsable du café à Brasileira.
Du Brésil, il a rapporté du café, un produit mal connu à l'époque et peu apprécié des Portugais à cause de son amertume. Mais Adriano Teles connaissait les vertus du café et voyait dans son implantation au Portugal une valeur sûre. Et pour inculquer l'art du café, pendant 13 ans, il en a offert une tasse à ses clients. Il leur apprenait à le moudre et à le filtrer pour qu'ils apprécient pleinement la boisson.
Sur les murs et jusqu'au plafond, aux moulures d'origine, on trouve de nombreux tableaux d'artistes. Une vocation du Brasileira sous la pulsion de son créateur.
Le fondateur du Brasileira était amateur d'art. Il défendait la culture et il estimait qu'il avait le devoir d'en faire profiter la société. Il a fait du Brasileira le premier musée d'art moderne de Lisbonne à une époque conventionnelle où les artistes modernes n'étaient guère appréciés. On a eu ici des œuvres magnifiques d'Eduardo Viana et d'Almada Negreros, des artistes dont les peintures hantent aujourd'hui le cabinet du président de la République.
Le Brasileira était le repère d'un personnage emblématique de Lisbonne, l'écrivain Fernando Pessoa. Sa statue, la plus photographiée de Lisbonne, trône à l'entrée du café. À Brasileira, rend hommage au célèbre écrivain.
Il passait beaucoup de temps ici, il y a trouvé l'inspiration de nombreux livres et c'était son lieu de rendez-vous avec ses comparses artistes. On continue à servir un plat qu'il aimait particulièrement, le steak à la Brasileira avec une sauce au café, et on perpétue son œuvre grâce au journal Mensageim de Lisboa. On a aussi publié une récente édition de son livre du même nom, Mensageim. Fernando Pessoa y évoque l'époque des grandes découvertes portugaises. Bref, on fait le lien entre l'auteur et le lieu, on fait revenir Fernando Pessoa au café à Brasileira, c'est-à-dire à sa place.
Message, le message. Le nouveau journal lisboète qui vient d'être lancé s'est inspiré de ce nom. L'hommage à Pessoa est revendiqué. Catarina Carvalho, cofondatrice et chef de rédaction du Message de Lisboa.
C'est ici au Brasileira qu'est né le projet du journal. Grâce au partenariat entre les nouveaux gérants du café et un groupe de journalistes indépendants, nous l'avons choisi pour le côté affectif. Et c'est ici que nous organiserons toutes nos rencontres publiques. J'espère bien que le journal vivra aussi longtemps que le café, qui a déjà 115 ans.
Pour la journaliste, le lien entre le journal qui parle de la vie de Lisbonne et la tradition du Brasileira est évident.
Au Brasileira, il y a des débats sur l'urbanisme, par exemple, et penser la ville. Et ça n'est pas moins intellectuel que de parler d'art ou de littérature. Ce café, avec son rôle de diffusion d'idées nouvelles, est en symbiose avec la vie de Lisbonne.
Dans la rue, devant le Brasileira, un rappeur tente d'attirer l'attention des passants. Le magazine Message de Lisboa se veut à l'écoute d'une Lisbonne encore mal connue mais traversée par des courants novateurs. Le journal veut renouer avec cette tradition intellectuelle un peu tombée dans l'oubli. Pour le grand bonheur des clients du café qui retrouvent une ambiance incomparable. Philippa.
L'ambiance, la décoration, le très bon café, les gâteaux, pour nous les Lisboètes, c'est une référence. Petit, on y venait avant d'aller à l'école, ou bien en soirée quand on allait au théâtre São Carlos. C'est l'âme de Lisbonne, c'est là que tout se passait. Moi, j'allais à la librairie Bertrand, juste au coin. J'achetais un livre que je venais lire ici, devant un café, tout le temps que je voulais.
Il flotte dans l'air un parfum de café torréfié à point et une odeur de caramel émanant des gâteaux en vitrine. On le jurerait presque, c'est Fernando Pessoa lui-même qui lit à sa table préférée.
Ah, look at that, another fine day, shining down on God's sweet Britain.
Qu'y a-t-il dans la presse européenne cette semaine? On en parle avec Sacha Mitchell du magazine Courrier International. Bonjour Sacha.
Bonjour Juliette.
Pour commencer, on part à Londres où The Economist s'intéresse au train de vie des premiers ministres britanniques.
Et avec une question, les occupants successifs du 10 Downing Street sont-ils mal considérés? Tout part d'une affaire liée à l'actuel premier ministre Boris Johnson. Depuis plusieurs semaines, la rénovation de son appartement de fonction fait jaser outre-Manche. Les travaux auraient été en fait partiellement financés par un donateur du Parti conservateur en infraction des règles de financement de la vie politique. Une enquête a même été ouverte. On peut être surpris, mais contrairement au locataire de l'Élysée, Boris Johnson ne dispose ni d'une armada de domestiques, ni d'un médecin personnel, ni d'un chef cuisinier. Alors certes, il est bien entouré pendant la journée dans l'exercice de ses fonctions, mais pour ce qui est de sa vie privée, l'austérité est de mise. Et après une journée aux commandes du pays, le Premier ministre ferme la porte de son appartement pour se retrouver face à toutes les corvées domestiques, lessives, cuisine et administration personnelle.
Aucun moyen pour lui d'y échapper vraiment ?
Si, mais à condition de payer de sa propre poche. Alors quand même, il faut le dire, il existe des aides. Pour l'entretien de son logement, le Premier ministre a droit à 35 000 euros par an, ce qui n'était visiblement pas suffisant aux yeux de Boris Johnson. C'est même bien peu, d'après The Economist, comparé aux frais engagés par Barack Obama et Donald Trump, plus d'un million d'euros tout de même, pour redécorer la Maison Blanche pendant leur mandat respectif.
D'où vient, Sacha, cette réticence britannique à dépenser de l'argent pour les besoins privés du Premier ministre ?
Eh bien, elle trouve son origine dans une intuition parfaitement admirable, selon The Economist, à savoir l'idée que les responsables politiques sont des citoyens ordinaires et non une caste de privilégiés. Boris Johnson a d'ailleurs été soigné dans un hôpital public lorsqu'il a contracté le Covid-19 l'année dernière, contrairement à Donald Trump. En somme, le Premier ministre britannique n'a nul devoir d'incarner la majesté de l'État. Il existe déjà quelqu'un pour remplir ce rôle, et ce quelqu'un, c'est la reine.
Autre train de vie, Sacha, celui de la mafia en Sicile. La jeune génération de la Cosa Nostra ne se refuse rien.
Et oui, la mafia sicilienne est tombée bien bas, c'est ce que nous dit le journaliste Attilio Bolzoni. Il y a peu, des amis policiers lui ont montré des photos de rejetons de la Cosa Nostra. Ils sillonnaient la plage de Palerme sur des jet skis, se donnaient bruyamment en spectacle, faisaient des selfies. Elle semble bien loin, l'époque de Bernardo Provenzano, ancien grand chef de la mafia sicilienne. Lui aimait la ricotta de brebis, les repas frugueux typiques du paysan qu'il a toujours été. Et oui, car l'ostentation n'a jamais été dans les habitudes des chefs de la mafia sicilienne, assure Bolzoni dans les colonnes du quotidien Domani. Tout le contraire des Napolitains de la Camorra d'ailleurs, tapageurs et m'as-tu vu, toujours prêts à faire étalage de leur richesse.
Mais tout passe, tout change.
Oui, aujourd'hui, les héritiers réels ou présumés de la Cosa Nostra se goinfrent d'huîtres et de champagne dans les restaurants de Palerme où ils commandent uniquement ce qui est cher. Et ce n'est pas tout. Après une fusillade survenue il y a quelques semaines à Palerme, les protagonistes ont réglé leur compte à coups de post Facebook, parfois même depuis l'hôpital. C'est du jamais vu, assure Bolzoni, surtout pour une organisation qui, depuis que le monde est monde, se veut secrète.
Et comment on explique ce changement d'attitude ?
Eh bien, pour Bolzoni, cette chute dans la qualité de la criminalité, si on puis dire, a une cause assez simple. Les coups de filet de ces 20 dernières années qui ont désorganisé manu militari les clans de Palerme. Les premiers couteaux de la mafia ont été remplacés par les seconds, puis les seconds par les troisièmes par les quatrièmes qui ne sont plus que de pâles copies de leurs prédécesseurs.
Un tout autre sujet, Sacha, vous parlez aussi de nourriture cette semaine, alors pas de la ricotta ni des huîtres, mais de la saucisse avec un spécialiste allemand.
Et avec l'arrivée des beaux jours, du retour attendu des barbecues, rien de mieux pour ce mettre l'eau à la bouche. Volker Pöhlmann est historien de l'art et spécialiste de la saucisse. Il est surtout interrogé par le journal autrichien Falter, auquel il raconte sa fascination pour le mets qui remonte au lendemain de la guerre. Je cite, « L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est quand j'accompagnais ma mère faire les courses et que j'avais droit, à titre exceptionnel, à un morceau de saucisse sans pain. Pour moi, c'était un des sommets de la gastronomie. » Puis, l'intérêt est devenu artistique. Selon lui, la saucisse est fascinante en tant que sculpture plastique, en tant qu'œuvre totale. Alors pour satisfaire sa passion, Pöhlmann a sillonné l'Allemagne, mangeant de son propre aveu une quantité astronomique de Wurst, comme on dit en allemand. Il en tire un livre d'ailleurs en 2017 intitulé, de manière sobre mais avec un titre plein de promesses, à propos de la saucisse.
Merci Sacha Mitchell de Courrier International. Tous ces articles à retrouver dans le numéro de cette semaine avec à la une un dossier sur l'ARN messager. Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. On se retrouve sur le site rfi.fr, à la page podcast, sur vos plateformes d'écoute préférées et sur les réseaux sociaux. À demain.